RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ludovic Obraniak et Jonathan Macardy, et vous sur l'application Direct Studio, sur le hashtag RMC Live, bien entendu, évidemment. On revient, on analyse la première affiche de la 11e journée de Ligue 1. Match nul un partout entre Nîmes et Saint-Etienne. Le premier buteur Kabila après quelques secondes de jeu. Égalisation d'Alioui à la 74e. Jérémy, supporter des Crocodiles, est avec nous en direct dans l'after. T'es toujours là, Jérémy?
Toujours, toujours.
Et toujours avec le sourire, toujours optimiste, Jérémy. Parce que tu disais, toujours finalement, le vrai championnat, il commence maintenant.
Optimiste. Pardon, je t'ai pas entendu.
Tu disais notre vrai championnat, il va commencer maintenant.
Tout à fait. Mais après, il a déjà commencé. Hein, et puis nous, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est une équipe de lâche rien, c'est un public de lâche rien. Donc, clairement, tous les matchs vont compter. Hein, il nous faut 40 points pour être tranquille. C'est maintenant que ça démarre. On en a déjà 11. C'est déjà ça le prix.
Mais Jérémy, j'ai envie de te demander... Est-ce que tu dis tout va commencer, mais est-ce que le plus dur va commencer finalement, puisque quand on regarde un peu les matchs de Nîmes contre les équipes un peu moins huppées, ils arrivent à trouver justement ces ressources, cette fourrière pour essayer d'aller inquiéter les gros. Mais quand on regarde les résultats contre Guingamp, contre Reims, c'est beaucoup de matchs nuls. Il y a une défaite contre Toulouse. Donc est-ce que toi, ça t'inquiète pas justement de jouer des matchs un peu moins, est-ce qu'ils arriveront à trouver justement
avoir
cette énergie,
avoir le jeu adapté à ça,
non mais cette énergie qu'ils trouvent justement à se sublimer quand ils jouent des équipes qui où ils sont finalement outsiders et où là ils pourraient être peut-être favoris.
Bah, je peux te répondre en deux temps. Le premier, c'est que c'est quand même pertinent ce que vous dites, parce que déjà depuis deux ans on avait remarqué, nous supporters PMC, c'est une équipe qui avait tendance à se sublimer, à hausser son niveau de jeu. Ça, c'est une réalité. Donc, plus l'adversaire est fort, plus Nîmes est fort. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué.
Je te dis ça parce que maintenant, moi, je les ai affrontés la saison dernière en Ligue 2, et c'est ce que j'avais plus ou moins constaté déjà.
Ouais, clairement. Non, mais clairement, c'est un constat qui était déjà présent. Après, faut aussi noter que c'est une équipe qui vit ensemble depuis déjà un certain temps, et je pense qu'ils ont appris ensemble aussi. Donc, ils vont, j'espère, progresser à ce niveau-ci. On l'a déjà remarqué. Et puis, on peut se dire aussi que c'était moins flambant la Ligue 2 l'an dernier, et que du coup en Ligue 1, même si sans manquer de respect à ces petits clubs, entre guillemets, si on avait été en division inférieure, ça aurait été des affiches et on se serait transcendé à ce moment-là. Donc finalement, c'est quand même des équipes qui sont à un niveau supérieur et qui impliquent que si effectivement les Nîmois montent leur niveau de jeu, ils vont le monter contre.
Après, pour aller dans le sens de Ludo, quand on regarde les résultats de Nîmes depuis le début de la saison, quand tu regardes les matchs contre les adversaires moins huppés, c'est une défaite contre Toulouse, c'est un 0-0 contre Guingamp et un 0-0 contre Reims, où justement tu avais un peu moins de contenu que dans les matchs face aux gros.
Alors certes,
c'est un constat injuste, hein.
Alors Reims, c'était quand même plus encourageant que Guingamp, très sincèrement.
Guingamp, c'était pas génial.
Venu,
hein.
C'était la muraille de Chine, Guingamp.
Après, t'as des adversaires qui s'y prêtent, moi, comme tu le dis, pas forcément, puisque tu as des clubs qui jouent, qui sont des clubs qui jouent, qui sont moins ouverts que justement Saint-Etienne, Paris, Monaco, des clubs comme ça.
Mais Bernard Blacard avait répondu très simplement dernièrement à ce type de propos en disant que pour gagner, il faut attaquer, pour marquer des buts, aussi simple que cela soit-il.
Il a raison,
à un moment donné, le football, ça se résume à ça, c'est que si on veut prendre des points, mis à part faire des 0-0 pour prendre un point petit à petit, il va falloir planter, comme on dit chez nous, et du coup, pour ça, il n'y a qu'une solution, et la meilleure manière pour Nîmes d'y parvenir, c'est de maintenir ses valeurs et son jeu, on ne sait pas faire autre chose. Et en même temps, c'est peut-être une bonne chose parce que nombre de médias, dont RMC notamment, mettent en valeur cet engagement et ce volontariat offensif, qui est peut-être une bonne chose pour notre Ligue 1 et qui finalement peut peut-être donner envie à d'autres équipes, si tant est que les résultats suivent.
Après... Merci d'avoir été avec nous, Jérémy. Bonne soirée à
salut,
toi.
Jérémy. Merci Jérémy. Beaucoup. Salut.
Salut Jérémy. À bientôt.
Je pense que la question que Blacard doit résoudre, c'est quelle est sa paire d'attaquants. Je pense qu'il en a quatre de niveau plus ou moins équivalent, mais qui ont des profils quand même différents.
Là, on voit qu'il tâtonne, hein, et il n'arrive pas à trouver. Là, ils étaient sur une série assez négative au niveau offensif. Mais...
Et je pense quand même que même si il n'a pas vraiment mis depuis le début de la saison en Ligue 1, mais je pense que Bozok et Alioui, c'est quand même ultra complémentaire. C'est les deux qui auront le plus de complémentarité.
Alors, on avait un Nîmois qui était plutôt optimiste il y a quelques instants en direct dans l'after. On va accueillir Momo, autre supporter des Crocos qui nous a appelé au 32-16. Salut Momo.
Bonsoir l'équipe.
Salut Momo.
Toi, tu préfères laquelle de paire d'attaquants,
moi,
Momo?
Bon, écoutez, j'étais au stade, là, j'en sors, là, à peine. Hein.
Ouais.
Concrètement, je vais un peu peaufiner l'analyse de Jérémy. Hein. Effectivement, on reste sur les mêmes valeurs d'abnégation, de volontariat, d'aller de l'avant. Mais irrémédiablement, je pense que Nîmes a besoin de faire évoluer ce jeu. Ouais. Comme l'a dit si bien un de vos...
Ludovic. Ludo Bryan, quoi.
Je ne sais plus qui c'est qui l'a redit.
Non, si c'était intelligent, ce n'était pas Jonathan, c'est sûr.
Il faut mettre les attaquants dans de bonnes dispositions.
Mais si,
là, en l'occurrence, Bozo, comme vous l'avez dit, c'est un joueur qui vient de CFA. Qui a besoin encore d'apprendre. Là, on voit sur.
Il était à Consola il y a encore 2 ans. Hein. Il était à Marseille Consola avec le frère de Maxime Lopez en pointe il y a encore 2 ans.
Exactement, exactement. Donc, on sent bien quand même qu'il est encore en phase d'apprentissage et que, comme tu l'as si bien dit, il a besoin d'un joueur qui prend l'espace devant lui parce qu'il se fait bouger.
Et justement, Momo, toi, tu préfères laquelle de paire d'attaquants?
Personnellement. Ouais. Celle qui me donne le
parce
plus.
Parce qu'on a 4 qui sont corrects en fait.
Bozok, Alioui.
Ouais.
Mais Alioui sort d'une blessure relativement grave. Voilà.
Ah, c'est vrai. On l'a oublié.
Mais Momo, juste pour en revenir à ce que disait Jérémy précédemment, il a raison finalement. Le vrai championnat de Nîmes, il va commencer maintenant. Là, ils ont joué des équipes de haut de tableau. Est-ce que toi, t'es optimiste ou pas quand tu vois le contenu des matchs?
Tout à fait. Ben écoutez, j'étais à Toulouse. Non match total. Alors qu'on les avait rencontrés en match amical à Aigues-Mortes. Ils avaient fait un partout.
Et surtout, je te rajoute quelque chose, mais Toulouse, c'est pas, surtout à cette époque-là, sur ce match-là, c'était pas une équipe qui bétonnait derrière, quoi. T'avais quand même des espaces.
Exactement. Et là, on a vu un manque d'inspiration, quelque part même un manque d'envie, quelque part. Donc, je reste perplexe parce que là, quand on a vu Guingamp venir à Nîmes mettre le bus.
C'était pas génial comme
match. On n'a pas réussi à décanter la situation comme on l'aurait fait contre les gros. Sincèrement, je pense que là, pour Nîmes, le gros problème, comme vous l'avez si bien dit, Savagnier, c'est un super joueur. Je pense que concrètement, on a beaucoup de chance de l'avoir à l'heure actuelle. Je vous dis même pas son salaire, qui est dérisoire comparativement aux autres joueurs de Ligue 1. Et c'est l'ensemble de l'équipe de Nîmes qui a des salaires relativement bas. Moi, je vous dis, la profondeur de banc va être très problématique pour la suite.
Au niveau central, on tâtonne
encore. L'année dernière, c'était Arek, Briançon. Là, on a essayé Landre, Libouy. Ça reste fragile. Hein. Ça reste très, très fragile. Au milieu de terrain, Valls, comme vous l'avez dit, hein, là, ça déclenche bien au niveau du pressing. Mais Valls, c'est un super joueur, hein, mais qui, il y a 2 ans, joue encore avec la CFA. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça apprend. Ça apprend un peu progressivement. Mais j'aimerais vraiment pas que Nîmes ait un destin similaire à Troyes, par exemple. Qui produisait un jeu relativement léger.
C'est une belle comparaison, ouais.
C'était malheureusement à la fin.
Mais je trouve quand même que non, c'est pas vrai. Attends, Momo, hein, c'est pas. Que... Je trouve que Nîmes a quand même plus de certitude défensive que Troyes pouvait en avoir. Ils sont moins naïfs, j'ai envie de dire.
Bah, tu sais quoi, moi, je pense que c'est trop tôt pour le dire, justement.
Ouais.
Non, mais là, il y a un espèce, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais là, on est très séduit par cette équipe parce qu'elle joue face au gros, justement. Mais c'est vrai que là, les vrais matchs sur lesquels on va les juger, c'est maintenant, là. Mmh. Là, t'es qu'à la 11e journée, hein, finalement. Parce que là, ils gagnent pas beaucoup. Alors oui, ils ont 11 points, c'est pas dégueu, 11 journées, mais t'as un point en moyenne par match, hein, c'est très peu. Hein.
Ce qui rentre souvent en ligne de compte dans les matchs de Nîmes, c'est la qualité, la qualité principale, c'est le cœur.
Ouais, c'est ça.
Que tu mets dans les matchs, l'intensité que tu mets, et contre des équipes un peu plus regroupées, qui jouent aussi leur tête, ben tu vas trouver des adversaires
en janvier,
dans la même configuration.
Et en janvier, est-ce qu'ils seront aussi en forme physique?
Non, mais il faudra.
C'est ce que disait Momo. Il a peur, lui,
trouver d'autres ingrédients. Mais pour moi, l'ingrédient, il se anime à domicile. Il y a possibilité de faire énormément de choses. Maintenant, à l'extérieur, essayer d'aller chercher des points, d'être un peu moins,
de
capitaliser à domicile et d'essayer de.
D'être capable d'incorporer des variations dans le jeu parce que c'est tout ou rien en fait avec cette équipe.
Momo, merci d'avoir été avec nous. Ne raccroche pas, Momo. On a un petit cadeau pour toi. La saison 8 de Walking Dead en DVD, mon pote.
Merci les gars.
Ouais, tu fais bien l'acteur.
Ah, ça existe plus le DVD, Momo. Arrête, t'es con.
Arrête, mais si, Momo, il est un lecteur DVD.
T'as même plus de DVD, Momo. Arrête.
Bonne soirée, Momo.
Bonne soirée, les gars.
Salut, merci. Ciao, Momo. On accueille Mohamed, supporter des Verts, qui nous a appelé au 32-16. Ils en pensent quoi de ce match nul, tiens? Les Stéphanois, un partout à Nîmes ce soir. Salut Mohamed.
Salut Mohamed.
Alors on rappelle que Saint-Étienne restait sur un nul face à Rennes, une défaite auparavant. Ça fait donc une série de 3 matchs en victoire pour les Verts, qui marchent un peu au ralenti aussi là, Mohamed.
Moi j'ai envie l'optimisme des copains Nîmois là, juste avant, parce que moi franchement je suis très très pessimiste. Hein. Quand je vois le niveau de jeu de la SSE, c'est catastrophique, quoi. Et aujourd'hui j'ai envie de montrer du doigt Jean-Louis Gasset. que j'ai l'impression que Jean-Louis Gasset, les 6 mois exceptionnels de la fin de saison dernière, on a tous dit qu'il était très fort. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un problème, quoi. C'est-à-dire, Loïc Perrin, s'il ne voit pas la dernière fois contre Sarre, et là aujourd'hui, qu'il n'avance plus, Diony, il ne sert à rien, Salibur, il n'apporte rien, Monet Paquet, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, il va falloir quand même qu'il se remette en question sur ses compos d'équipe, sur le côté sénateur de l'équipe. Moi, on me vante la paire Selnaes, Mvila. Mais Mvila, il a fait combien de passes décisives? Qu'est-ce qu'il apporte vraiment?
Alors...
sénateur. Moi, je suis vraiment inquiet. Et quand je vous entends, après, je vous écouterai. Quand je vous entends voir Saint-Etienne comme un outsider, des gros outsiders, moi, on voit pas les mêmes matchs.
Non, là. Mohamed, on pensait Saint-Etienne comme un éventuel outsider au vu du mercato et de son entraîneur et des saisons précédentes et de l'expérience. Voilà, et de ton groupe, t'as une accumulation de très bons joueurs, notamment sur le plan offensif. Et nous, on était dans l'attente, dans l'expectative. Bah attends, et tu rigoles ou quoi? T'as quand même Cabella, Casemiro.
Cabella, t'as regardé tous les matchs?
Non, mais je te dis pas de ce qu'ils produisent. Je te dis au début de saison.
Ça veut dire qu'il y a un souci dans le travail ou dans l'investissement là, parce que au bout de 10 matchs, il a pas fait un seul match valable.
Bon, écoute,
sans aller jusque là, mais il y a, c'est une mi-temps.
T'es dur à Saint-Etienne,
c'est souvent une mi-temps sur deux, et à l'extérieur, c'est très frileux.
Mohamed, moi, je pense que déjà sur la série de matchs en cours, t'as fait des matchs sans Debuchy et Selnaes, qui sont deux joueurs hyper importants dans cette équipe. T'as mis en lumière les prestations un petit peu indigentes d'Mvila récemment. Je suis d'accord avec toi. Par contre, au milieu de terrain, Selnaes, son retour leur a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, c'est lui qui fait une super passe entre les lignes pour trouver Nordin et qui amène c'est ça qui amène le but de Cabella. Donc, je pense déjà que son absence a été très préjudiciable sur le dernier match notamment. Debuchy aussi, pour moi, il fait un gros match encore. Et c'est lui qui fait le centre, qui amène le but. Il sauve aussi un but sur sa ligne à la 62e. Il fait un match extraordinaire et puis c'était vous l'avez pas eu depuis le début de la saison. Après, je pense que le problème de Saint-Etienne surtout, et on l'a vu vraiment sur ce match-là, c'est que Gasset n'arrive pas à trouver la formule devant. Alors on a tendance à dire qu'abondance de bien ne nuit pas, mais là je pense que par rapport à la saison dernière, il a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à trouver la formule. Et surtout, quand on voit les joueurs qui ont été alignés ce soir, Monet Paquet, Cabella, Nordin, quand tu vois l'espace qu'il y avait entre Selnaes, Mvila et cette ligne de trois joueurs offensifs, c'était
mais après,
impossible.
Match,
tu peux pas jouer comme ça.
Si Casri bouffe pas la feuille.
Tu peux pas et tu fais. C'est pour ça que surtout en deuxième mi-temps, tu t'es fait bouffer toute la seconde mi-temps par le pressing nîmois parce qu'aucun des trois joueurs ne revenait faire les efforts alors que de l'autre côté, les deux ailiers les deux ailiers nîmois faisaient les efforts justement pour apporter le surnom au milieu. Donc forcément à chaque fois Selnaes et Mvila étaient tout seuls et tu t'es fait bouffer. Donc je pense que la vraie clé pour Saint-Etienne, ça va être de trouver cette formule offensive. Donc pourquoi pas. Une dernière chose, Casri en neuf, c'est plus possible.
Non mais enfin,
c'est plus possible.
Moi j'adore Casri, mais c'est vrai que là il fait pas un bon match. Non mais là il fait pas un bon match et forcément ça se ressent.
Mais c'est une question de tout ce qu'on a vu de Saint-Etienne jusqu'à maintenant. Il y a un Saint-Etienne à domicile, il y a un Saint-Etienne à l'extérieur. Or à l'extérieur, depuis un moment, Saint-Etienne est une équipe qui joue regroupée, peu importe contre qui ils jouent, que ce soit contre le PSG ou contre Nîmes ce soir, où justement ils auraient une capacité avec les joueurs qu'ils ont, qui sont pas des joueurs à vocation défensive devant.
C'est vrai qu'ils ont qu'une victoire, c'est contre Toulouse.
On peut pas dire que Casri fait un gros travail défensif, Cabella non plus. On peut pas dire ces choses-là.
Monet Paquet plus.
L'idéal, ça serait de presser l'adversaire un peu plus haut. Or, tu joues avec Casri en avant-centre, avec un bloc bas. Or, Casri, il est très intéressant quand tu joues un bloc un peu plus haut et que lui, il peut s'exprimer dans les 30 derniers mètres et commencer à combiner avec Cabella, des joueurs
dans
comme
les
ça autour
espaces,
de lui.
Oui.
Mais quand il est loin du but, tu le vois, il est à bout de souffle. À un moment donné, il y a une occasion où il part en contre.
Il veut la donner pied gauche.
Mais il est cuit, il est carbo parce que il part de trop loin. Casri, c'est pas un joueur qui peut faire des courses de 50 mètres.
Tout à fait.
C'est un joueur qui a besoin de récupérer le ballon dans les 30 derniers mètres, de faire parler sa vista et de pouvoir alimenter le reste de l'équipe, mais un cran plus haut. Et là, quand t'es dans cette situation-là, avec Casri en neuf, c'est compliqué.
On remercie Mohamed qui nous a appelé au 32-16. On t'offre un t-shirt de l'After. Ne raccroche pas. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola. Voilà, phrase mythique de l'histoire de l'After signée Fred Hermel qui sera avec nous dans quelques instants parce qu'on est à J-2 du Classico en Espagne entre le Barça et le Real. Retour sur cette semaine européenne parce que
on a fini sur le match.
Oui, un partout entre
Il faudra quand même juste un jour parler de la défense stéphanoise. On a beaucoup dit à Perrin Subotic, c'est formidable, mais c'est pas complémentaire du tout.
Hier, on a vécu un jeudi noir en Europa League. Trois défaites pour les clubs français.
Voilà.
Ouais. Alors, défaite de Marseille, on le rappelle, 3-1 face à la Lazio. Défaite de Rennes à domicile, 2-1 face au Dynamo Kiev. Défaite de Bordeaux à Saint-Pétersbourg face au Zénith, 2-1. Trois matchs nuls en Ligue des Champions pour les clubs français. Lyon à Hoffenheim, Monaco à Bruges et le Paris Saint-Germain à domicile, 2-2 face au Napoli. Il y a une stat qu'Opta nous a sortie aujourd'hui. La France n'a remporté que 3 matchs sur 18 en Coupe d'Europe depuis le début de la saison. Ça fait 17% de succès. C'est le plus faible taux pour les clubs français depuis 72-73. La question, elle est simple. Et je sais que déjà hier, on avait ouvert le débat avec Daniel Riolo et Jérôme Bretagne également. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du niveau de la Ligue 1, les gars? C'est un peu ce qu'a dit Christophe Galtier également en conférence de presse. On lui a dit, est-ce que finalement, après le 2-2 du PSG, est-ce que le niveau de la Ligue 1 tire pas le PSG vers le bas aussi et les autres équipes également? Lui, il a dit oui, bien sûr que ça joue en effet. Vous en pensez quoi de ça, justement? Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez les résultats là? Ou alors, faut surtout pas s'alarmer? Parce que là, on fait un premier bilan. Après 3 matchs, 3 journées, voilà, tu vois, 3 victoires sur 18.
Moi, j'ai dit mon sentiment quand je te dis « what did you expect ?» C'est à quoi vous attendiez? Tu penses que Bordeaux, toi, va battre le Zénith Saint-Pétersbourg? Tu penses que Rennes va battre le Dynamo Kiev?
Non, mais je pense pas qu'ils ont zéro point dans le groupe.
Mais
on parle globalement de la saison.
Je vais revenir sur cette journée-là parce que c'est cette journée qui vient de passer.
Oui, mais on fait le bilan, il est catastrophique.
Rennes gagne son premier match à domicile. Voilà, mais c'est des équipes qui sont pas dans la régularité. Rennes accroche l'Europe, ils sont pas régulièrement en Europe. Marseille est un coup en Europa League, un coup en Champions League.
Souvent en Europa League, c'est longtemps la Champions League.
Mais c'est des clubs qui... je mets Marseille à part, parce que la Lazio et Marseille, je pense qu'en termes de niveau, ça peut se valoir, en termes de capacité.
Ailleurs, on a vu que ça se valait pas.
Oui, mais sur un match. Mais parce que l'OM a quelques difficultés en ce début de saison. Mais ils ont prouvé la saison dernière que t'es quand même été en finale de l'Europa League, s'il vous plaît, quand même. On peut quand même leur accorder ça. Sauf que... à ce moment-ci, Zénith Saint-Pétersbourg, c'est une équipe qui a un championnat peut-être moindre en termes de qualité que le nôtre, mais c'est une équipe.
Ah, mais t'as vu l'effectif qu'ils ont.
Écoute, voilà, c'est ce que je te dis. Chaque année, le Zénith, c'est en Ligue des Champions ou en Europa League, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps. Il y a plus de 10 internationaux russes et du côté du Zénith et du côté du Dynamo Kiev.
Et côté Zénith, t'as 4 internationaux.
Tu joues avec des mecs qui ont le niveau international.
Le débat ne porte pas que sur les matchs d'hier. On fait un bilan depuis le début de saison. Il y a le Slavia Prague qui est dans le groupe. Alors Copenhague, c'est un club qui est habitué à l'Europe, je veux bien. Le Slavia, ils ont quand même bouffé leur pain noir ces dernières années. Tu regardes le groupe de Marseille. Le groupe de Marseille qui est peut-être le plus relevé. Il y a Dynamo Kiev pour qu'il y ait un équilibre. Yablonets, Astana.
Mais vous suivez pas le football, les gars. Il y a vous qui suivez pas le football.
Pourquoi?
Moi, j'ai joué plus de 50 matchs en Europa League. Tu crois quoi? Tu crois que c'est facile d'aller jouer à Copenhague?
Ah non, je te dis pas l'inverse.
Et tu crois que Rennes, ils sont favoris quand ils vont jouer à Copenhague? Tu crois que contre le Zénith, ils sont favoris?
On parle d'un des 5 meilleurs championnats d'Europe hein, aussi.
C'est
le ranking.
Et peut-être qu'il faut revoir vos standards. Vous croyez qu'à l'étranger, il se passe rien? Tu crois que le championnat ukrainien, que le championnat russe, on travaille pas? Tu crois que le championnat turc, on travaille pas? Même le championnat israélien, moi j'ai joué dans le championnat israélien.
Non mais Ludo, au Zénith, il y a énormément d'internationaux.
La poêle Bercheva l'année dernière, ils ont passé les phases de groupe, ils ont sorti l'Olympiakos, ils ont failli au deuxième tour sortir je sais plus quelle équipe, mais une grosse équipe. En poule d'Europa League, ils ont mis deux fois l'Inter de Milan, gagné à l'Inter et à domicile. Ouais. Donc il y a que vous qui vous intéressez pas au championnat, donc
ça veut dire qu'on travaille pas en France.
Ça veut dire que c'est
ce que tu dis. Tu dis oui, ils travaillent pas.
Ça veut dire que le niveau au niveau européen se resserre et que nous, nos joueurs qui ont pas l'habitude d'être des joueurs de niveau international européen, arrivent à ce niveau-là, ils arrivent pas à se mettre au niveau.
Je suis pas d'accord simplement. Alors je suis d'accord avec toi quand sur le match de Rennes et Bordeaux, effectivement, Dynamo c'est une équipe de Ligue des Champions et le Zénith ils ont une palanquée d'internationaux argentins, russes, ils ont un top coach, c'est une équipe de Ligue des Champions. C'est deux défaites qui sont extrêmement logique. Après, moi, quand je regarde juste, tu vois, sur cette journée-là, et ça va me permettre de tirer une conclusion générale depuis le début de la saison. PSG face au Napoli, je suis désolé, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est au-dessus du Napoli.
J'exclus le PSG.
En termes d'effectifs, en termes de budget, en termes de tout, c'est un club qui est au-dessus du Napoli. Lyon face à Hoffenheim, je suis désolé, en termes de budget, en termes d'effectifs, etc. Lyon est au-dessus d'Hoffenheim. On est d'accord là-dessus.
Après Lyon, ils ont aussi tapé City.
Laisse-moi finir. On est d'accord que Lyon, en termes de budget.
Je parle d'Europa League, je parle pas de Champions League.
Moi, je te parle. Ouais, ok.
Après, la Champions League, on en parlera.
Laisse-moi finir.
Mais moi, je te parle pour l'instant sur l'Europa League.
Lyon est au-dessus d'Offenheim en termes de budget, en termes de joueurs, etc. Monaco face à Bruges. Je suis désolé. C'est pareil. Monaco, c'est un club qui a fait demi-finale, qui a un parcours au départ européen.
Qui là joue le maintien en Ligue 1.
Mais je suis d'accord. Ok. Marseille. Je suis désolé. En termes de budget, en termes d'effectifs, c'est au moins égal à la Lazio. Moi, je pense vraiment que ce qu'on a vu, quand on regarde tous les matchs, et on en a vu beaucoup tous, chacun, des matchs de Coupe d'Europe de nos clubs français, c'est la différence d'intensité par rapport aux matchs de Ligue 1.
Tu sais qu'il y a...
Et c'est frappant. Par exemple, sur le match face à de Marseille face à la Lazio, je suis désolé, tu vois, j'ai jamais vu Marseille se faire bousculer comme ça par une équipe.
Tu sais qu'il y a un élément qu'on n'a pas mis en avant également, mais ça va un peu dans le sens de ce que tu dis toi, mais toi aussi, mais c'est la dynamique aussi. C'est-à-dire que quand Rennes joue face à un Dynamo Kiev, bah Rennes ils sont dans le ventre mou de la Ligue 1.
C'est mort.
Non, mais attends, c'est pas le papier. Rennes ils sont dans le ventre mou de la Ligue 1, bah peut-être que le deuxième d'Ukraine c'est meilleur que le ventre mou de la Ligue 1.
C'est bien sûr que c'est meilleur.
Peut-être que le 18e de Ligue 1, bah c'est moins fort que le premier ou le deuxième du championnat belge.
Ah, mais bien sûr aussi.
Bah ouais,
mais bien sûr.
Alors c'est clair que nous on se dit qu'ils sont qualifiés en Coupe d'Europe parce qu'ils ont fait deuxième ou troisième l'année dernière, mais la réalité à l'instant T, c'est ça.
Tu crois toi que le FC Bruges il joue pas les 10 premières places dans notre championnat de Ligue 1?
Mais
largement. Et tu crois Kiev et Zenit ils jouent pas les 10 premières?
Là, le raisonnement n'a pas poussé jusqu'au bout. La conclusion, elle est simple, c'est que nos équipes de Ligue 1, par rapport au niveau du championnat, ne sont pas habituées lorsqu'elles arrivent en Coupe d'Europe et qu'elles jouent des équipes européennes.
N'empêche que c'est inquiétant.
Quand on juste le match pour terminer, quand on voit le match du PSG et le match de l'OM qui ont joué contre deux équipes italiennes, on a beaucoup craché sur le championnat italien, mais l'intensité que ces deux équipes-là ont mis face à nos deux équipes qui sont censées quand même être deux équipes phares dans notre championnat, je suis désolé, ces deux équipes-là n'ont pas l'habitude d'avoir.
Je te dis pas que c'est pas inquiétant. Pas inquiétant, mais faut être réaliste sur le niveau des autres championnats européens. On s'est voilé la face en se disant il y a cinq gros championnats. C'est nul, ça n'existe pas.
Pour conclure, on accueille Corentin, alors qu'il est supporter neutre, parce qu'il est supporter de Nîmes. Voilà, l'Europe, c'est pas pour tout de suite pour le Nîmes. Ce sera peut-être l'année prochaine, d'ailleurs, on va savoir. Salut Corentin.
Oui. Salut, oui, bonjour.
Salut Corentin.
Déjà.
Salut Corentin.
Ça va quand même être compliqué pour l'année prochaine, hein, j'avoue que là.
Ah, on sait jamais.
Une coupe. Une coupe.
Dans le football.
Et t'as la revanche contre Saint-Étienne, là, mercredi, hein.
Oui, je pense que la coupe là cette année peut-être ça va être.
Vous avez une belle histoire avec les coupes en plus, Corentin.
La Coupe de France, oui, ouais. La Coupe de la Ligue un peu moins, mais en plus contre Saint-Etienne, c'est une belle affiche de coupe. Après, ouais. Oui.
Alors qu'est-ce que t'en penses de ce débat, toi, Corentin? Comment est-ce que t'es inquiet déjà quand tu vois les résultats des clubs français depuis le début de saison en Coupe d'Europe, et comment tu l'expliques toi aussi?
Alors déjà, je pense que c'est une semaine, c'est vrai, difficile pour le foot français. Après, je pense qu'il faut partir d'un constat qui me paraît intéressant, c'est que on est champion du monde. Et que la différence entre le, en fait, on attend beaucoup des clubs français parce qu'on est français et qu'on est champion du monde. Et c'est là la différence, c'est que du coup, malgré nous, peut-être, on dénigre un peu les championnats étrangers.
Combien de joueurs de l'Alliance des Bleus jouent en Ligue 1?
Un ou deux?
Dans le 11.
En tout cas,
oui, dans le 11, aucun.
Moins de la moitié d'une équipe, ça c'est sûr.
Non, mais dans le 11, il y en a aucun.
Oui, je suis d'accord.
Qui sont susceptibles. T'as Thauvin, Fekir.
Oui, exactement. Je parle dans l'esprit des gens, en fait. Dans l'esprit
des gens. À part des joueurs du PSG.
Oui, t'as Mbappé quand même.
T'enlèves le PSG, tu le mets à part.
Vas-y, Corentin.
Non, pardon. Oui, donc du coup, je parlais dans l'esprit des gens, en fait. Du coup, on en attend beaucoup. On pense que dès qu'un club français va jouer, ça va gagner. Et du coup, on dénigre, je pense, les championnats étrangers, notamment les championnats italiens.
Qui pense ça? Je suis désolé, je suis d'accord. Tu t'es énervé, Ludo. Je comprends pourquoi, mais on est tous d'accord avec toi. Hein.
Mais beaucoup d'entre vous pensent que les championnats étrangers,
mais on est tous d'accord
avec toi. Ailleurs et que tu vois forcément les
Ludo, on est tous d'accord avec toi. Quand tu vois la compo de départ de Bordeaux et la compo de départ du Zénith, tu te dis, sur un malentendu, ça peut passer. Mais
vous êtes tous surpris que Rennes perd contre le Dynamo et que Bordeaux perd contre le Zénith.
Non, mais pas du tout. Pas du tout, ça c'est normal. Par contre, je suis surpris que Lyon considère comme un exploit d'aller faire match nul à Hoffenheim et que Monaco fasse gagner pas
forcément
face à Bruges.
Surpris de ces résultats-là. Mais pardon, après 18 matchs, voire 3 victoires des clubs français depuis le début de la saison, ça oui, ça me surprend.
Ça c'est surprenant, ouais.
Mais parce que il y a dans des clubs la culture de l'Europe que nous n'avons pas. Bordeaux ne joue plus l'Europe depuis un moment, Rennes non plus. Ces joueurs ne sont pas prêts mentalement, ils sont pas équipés.
Alors quand ils la jouent, Bordeaux et Rennes, ils ont une série.
Regarde Marseille, c'est normal de perdre à la maison contre.
Mais je te dis même aussi,
c'est pas normal.
Si on regarde maintenant les matchs de Ligue des Champions à budget équivalent entre Lyon et d'autres clubs et compagnie, l'Atlético Madrid, Dortmund. Regarde Dortmund.
Il n'y a pas de match.
Moi, je veux bien Jean-Michel Aulas qui nous explique qu'ils ont.
Mais c'est quoi alors ta conclusion? C'est quoi?
La conclusion, c'est qu'on.
Est-ce que les clubs à l'étranger travaillent mieux ou est-ce que nous on travaille moins bien?
À l'étranger,
travaille mieux. Dis-le, va jusqu'au bout de ton raisonnement.
On a peut-être. On a su à un moment donné.
Ils comprennent le manque d'oseille par le taf, quoi.
Ben, et ils ont des recruteurs qui travaillent partout, voilà. Qui savent prendre des bons joueurs, des joueurs de caractère, qui savent créer des complémentarités, voilà. Qui savent trouver des coachs, qui savent faire évoluer
allez,
un groupe.
Regarde Dortmund et regarde regardez l'effectif du Zénith, par exemple.
On remercie Corentin qui nous a appelé au 32-16. Tiens, on va aller dans la continuité de ce débat, justement, après les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Marseille qui a perdu face à la Lazio, le PSG qui a fait match nul face au Napoli. Ces deux clubs vont s'affronter dimanche dans le choc de la Ligue 1.
Et oui,
supporters marseillais, supporters parisiens, qu'attendez-vous de ce match? Est-ce qu'il a un réel intérêt pour vous?
3-0, triplé
de Sakai. 32-16, ça vous divise déjà pas mal d'ailleurs, hein, sur le hashtag RMC Live et sur l'application Direct Studio. Ouais, tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ludovic Obraniak et Jonathan Bacardi et vous sur l'application Direct Studio via le hashtag RMC Live. Vous êtes également au 32-16. Faut-il s'inquiéter du niveau de la Ligue 1 après cette semaine noire au niveau européen? On peut dire même après ce début de saison très compliqué. On le rappelle, 3 victoires en 18 matchs depuis le début de la saison pour les clubs français. On va rester dans la continuité d'ailleurs de ce débat.
Et c'est pas vraiment faut-il s'inquiéter du niveau de la Ligue 1. C'est faut-il s'inquiéter comment on travaille comment, voilà. En Ligue 1. C'est surtout ça.
Bah, après le niveau, c'est les gens le qui niveau travaillent. En découle, Ludo.
Mais je pense que, mais non, mais il y a des, il y a les deux, c'est les deux, c'est les deux.
Mais là où tu testes le niveau, c'est quand il est confronté à notre réalité.
T'as la conséquence, et puis t'as la
C'est les deux, c'est les deux, et je pense que le Paris Saint-Germain est symptomatique et le symbole et la figure de proue, en fait, des mots des clubs français en Coupe d'Europe. Le PSG, qu'on le veuille ou pas, c'est un club qui est très mal structuré par rapport au top 8 européen. Donc forcément, ils en pâtissent. La cellule sportive, elle est organisée n'importe comment. Ils ont un président fantôme. Donc le club, c'est un bordel sans nom. Et puis, ils n'ont pas l'habitude de jouer face à des équipes qui mettent de l'intensité. C'est les deux. C'est le travail. Est-ce que t'as le week-end, le problème?
Alors justement, puisque Jonathan parle du travail, toi, t'as connu la réalité à l'étranger aussi. On a souvent entendu des joueurs de Ligue 1 partir à l'étranger et dire, putain, c'est vrai que là, au niveau du boulot, c'est plus compliqué, c'est plus dur. T'as vécu ça ou pas en tant que joueur?
Pas vraiment, parce qu'au Werder de Brême, finalement,
j'ai rien branlé.
Non,
pas joué.
Non, honnêtement, j'ai pas plus travaillé qu'en France.
Ouais.
En tout cas, j'ai pas eu.
Il y a quand même beaucoup de joueurs qui disent quand ils partent en Angleterre,
en Allemagne,
ils vont à la muscu, machin et tout.
Voilà.
Ouais.
Après, ça dépend du coach.
Angleterre, Italie, bah, c'est ça. Ça dépend du coach avec lequel t'es. Alors après, en Italie, il y a une culture
tactique, la vidéo,
la muscu, tout ça. Bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, en Allemagne, j'ai pas vu une grande différence. La différence pour moi, elle était tactique plus que physique ou autre chose.
Est-ce que tu trouvais que le bas de tableau allemand c'était meilleur que le bas de tableau français?
Non, pas vraiment finalement.
Vraiment?
Ça se vaut, mais
après c'est pareil, ça dépend qui. Tu peux avoir une équipe qui est dernière avec 10 points de retard sur l'avant-dernier.
Et est-ce que au niveau de l'élite c'était peut-être plus resserré? C'était plus homogène?
T'as d'autres championnats où c'est un peu comme chez nous. T'as Barça, Real qui caracole souvent.
Non, c'est pas comme chez
moi, c'est un peu
Ludo.
Moins ces dernières années.
Ludo, on regarde leurs résultats.
En Ligue Europa, t'as Bayern qui est souvent devant. Enfin,
c'est vachement homogène l'Espagne. T'as deux monstres, mais c'est homogène.
Oui, mais pas depuis très longtemps.
Oh, ça fait un moment quand même pas que les 10 premiers de Liga, ils font des pactours exceptionnels.
Ça fait 3 ans.
Non, mais attends, ils ont
les résultats.
Mais moi, ce que je t'explique, c'est que je te parle pas sur les 5 gros championnats. Les clubs, je te parle des championnats extérieurs.
Russe, ukrainien.
Que le football n'existe pas, que les mecs ne bossent pas.
Ça, c'est une erreur.
Le football se resserre, que ça soit sur le niveau international ou on peut voir aussi avec les équipes nationales. Quand tu vois le Luxembourg est capable de venir faire un match nul contre des équipes majeures.
Ouais, mais
les mecs savent bosser au niveau physique, au niveau tactique, au niveau
technique. Tu vas pas bouger ton raisonnement.
Ils sont pas mal aussi.
Non, mais tu vas pas bouger ton raisonnement, Ludo. Parce que ça, je suis d'accord avec toi. Mais alors pourquoi, quand, moi, je suis désolé, on dit, pour moi, quand t'as de l'argent, tu dois être capable de, à budget, si t'as un budget super, tu dois être capable de battre le club. Mais à deux conditions. La première condition,
mais
c'est bien travailler, le rentabiliser.
Mais ça veut rien dire avoir un budget supérieur si tu prends des joueurs de merde.
C'est exactement ce que je te dis.
Voilà.
La condition, c'est de bien travailler. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui travaillent moins bien que des clubs dans ces championnats-là.
On est d'accord.
Et d'être habitué à l'intensité.
Regarde à Dortmund, t'as Zorc, c'est des gens
d'accord.
qui travaillent.
Et c'est ce que je te dis, hein. On est d'accord là-dessus.
Plongeons dans le choc de Ligue 2, de Ligue 1,
la Ligue 2 européenne,
du choc entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Marseille qui vient de perdre 3-1 face à la Lazio, qui est mal barré d'ailleurs en Ligue Europa. Le PSG qui est pas bien barré non plus.
Un point, c'est mort.
En Ligue des Champions, qui a fait 2-2 face au Napoli à domicile. Est-ce que finalement, supporters marseillais, supporters parisiens, eh bien, ce match vous intéresse? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre finalement? Je me tourne vers toi, Jonathan, toi qui es sympathisant de l'OM justement. Qu'est-ce que t'attends toi de ce match face au Paris Saint-Germain?
Un triplé d'Hiroki Sakai.
D'accord.
Non, ce que j'attends, c'est très franchement la saison de Marseillaise. Alors en termes comptables, ça va. Marseille est quand même présent. Il y a, voilà, si on s'en tient juste au nombre de points, à la rigueur, c'est pas mal. Après, moi, ce que j'attends, c'est de voir Marseille. Bah, toujours la même interrogation avec Rudy Garcia, c'est de voir Marseille dans les gros matchs que ça donne. Il y en a marre de se prendre des fessées déculottées face à des grosses équipes. Donc là, il y a eu un épiphénomène, c'est la victoire à Monaco en début de saison. Mais Monaco, quand on voit dans l'état dans lequel ils sont, je ne sais pas si on peut le considérer comme une victoire dans un gros match. Mais là, Garcia, ça fait 2 ans et demi qu'il est là. J'attends de voir quelque chose qui ressemble à autre chose qu'une fessée cunue déculottée, victime expiatoire. T'attends, tu tends les fesses et tu finis avec le cul rouge à la fin du match. Alors l'année dernière, c'est vrai que le match au Vélodrome avait été intéressant. Ça fait 2-2. Je pense que Marseille méritait la victoire. Mais voilà, là, par rapport au début de saison, par rapport au mercato, par rapport au fait que Garcia a eu tout ce qu'il voulait, par rapport au parcours européen, on nous a dit encore, eh ben Marseille, on va encore jouer la Ligue Europa jusqu'au bout. Mais quand on voit que là, bah t'es quasiment éliminé, t'as un point en 3 matchs. Moi, j'attends au moins une prestation. Tu vois, j'attends au moins une prestation qui ne soit pas indigente. J'attends une prestation qui soit digne. Parce qu'on passe l'oreille, hein, l'écart entre les deux équipes, il est abyssal maintenant. J'attends une prestation qui soit digne de la part de l'OM et de la part du Paris Saint-Germain. Ce que j'attends, bah après c'est déconvenu face à Napoli. Non, j'attends qu'ils mettent une branlée à Marseille. Ça serait, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça parce que je suis d'accord, hein, c'est bien beau de gagner les matchs en Ligue 1, tu vois, d'écraser Amiens, d'écraser Lyon, d'écraser toutes les grosses équipes. Mais la vérité pour le PSG, sans Coupe d'Europe. Et on sait que ce match-là, Paris a changé de narration, Paris a changé de paradigme. Mais ça reste un match qui est important pour les supporters parisiens. Et je pense que c'est important pour Touré et pour les PSG de mettre une branlée à Marseille ce week-end.
Oui, mais alors
donc c'est un match qui est important.
Alors tu vois,
pour les deux équipes.
C'est pour ça qu'on pose la question aux supporters de l'OM et du PSG, parce qu'il y a plein d'interrogations après cette semaine européenne, notamment. Moi, j'ai presque envie de te dire, si j'étais supporter du PSG, je te dirais, mais finalement, mettre des branles en Ligue 1, ça sert à quoi? Si c'est pour arriver en Coupe d'Europe après derrière et faire des longs-matchs.
C'est un match qui est à part. Ça reste à part.
Et justement, moi, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit encore
écoute,
un match à part.
Tu vois, pour parler avec pas mal de supporters parisiens, etc., ça reste quand même un match qui est à part dans la
même
saison.
Même pour les parisiens.
Et même pour les joueurs, Pour certains joueurs, tu vois, pour en avoir parlé avec certains, ça reste un match qui est quand même différent des autres matchs de Ligue 1. Alors, je te dis pas que c'est à la même échelle que les matchs européens, que les matchs de Ligue des Champions, mais c'est un match qui est important. C'est un match qui maintient le lien entre le Paris Saint-Germain et son histoire.
Ouais. T'es d'accord avec ça, Ludo, toi?
À court terme, moi, je vois plutôt à court terme. C'est deux équipes qui sont en quête de rédemption. Par rapport à leur public, par rapport à eux-mêmes. Quand tu vois la prestation du Paris Saint-Germain, tu te dis, mais on peut changer tout. Les joueurs, les entraîneurs, tu peux changer tout ce que tu veux. Au final, le résultat, c'est toujours le même.
Sauf que t'as pas changé l'essentiel. C'est la direction.
Ben voilà. Ben peut-être que c'est là qu'il faut chercher.
Le président fantôme et le directeur sportif.
À un moment donné,
qui fait ses petites
affaires. T'as tout pour réussir. T'as 3 devant, t'as 3 joueurs exceptionnels. Il te manque ton milieu de terrain, certes, il est pas fourni, mais je pense qu'avec ce que tu as, tu pourrais quand même.
Et pourquoi il te manque ton milieu de terrain? C'est parce que t'as mal bossé cet été.
Ben exactement. Et qu'à un moment donné, comme dans MPG, comme toi tu fais, au mieux faire, quand t'as 500 millions de budget, au mieux de te ruer sur Mbappé à
200. MPG, mon petit gazon.
Voilà, mon petit gazon, au mieux de te...
T'as pas fait une saison, tu parles aux champions sortants de Ligue 2. Donc on verra.
Au mieux de te ruer sur Mbappé à 250 millions, bah peut-être que t'aurais mieux fait d'acheter quelqu'un.
C'est là où on voit que tu débutes à MPG, toi.
Ouais.
Parce qu'avoir un mec comme ça, crois-moi, moi j'étais comme toi. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire des petites affaires à la Guèche, tu vois.
Bah, non, mais
ça m'a fini
pénultième.
Non, mais il faut pas déconner.
J'ai Sakai Ocampo, ça me va.
Tu vois Naples, l'implication, l'identité napolitaine, c'est-à-dire que t'as des joueurs représentatifs de cette équipe, t'as Hamsik, t'as Insigné, t'as plein de joueurs comme ça qui représentent.
Mais t'as
plein de joueurs de cette équipe.
Je vais un tout petit truc rapide. La différence entre le Napoli et le PSG, c'est que le Napoli a un grand président et une grande cellule de recrutement. C'est tout.
Mais on en est
et toujours, un très grand coach aussi qui était au PSG.
On en est toujours sur le même point.
Ah ouais.
C'est la manière de travailler.
Allez, les gars.
Exactement.
Et c'est la manière de diriger
On accueille Omar pour venir nourrir ce débat qui est lui qui nous a appelé au 32-16 supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Omar.
Salut les gars.
Salut Omar.
Ça va Omar?
Ça va, hein. Je suis supporter et je suis président d'un club amateur partenaire de l'OM. Donc tu vois,
lequel Omar?
L'AS Vivo Sauvagère dans le 10e.
Ok. Alors voilà. Qu'est-ce que t'attends de ce match toi alors dans 2 jours là,
alors
face
déjà
au PSG?
Je vais calmer un peu Jonathan parce qu'il est chaud bouillant là. Jonathan, c'est après le bal qu'on paye les musiciens. Voilà, toi tu parles de déculotté, moi je te dis je vais...
Non, t'as pas compris ce que j'ai dit Omar. J'ai dit j'attends de la part de Marseille une prestation digne et j'attends de la part du Paris Saint-Germain qu'ils mettent une déculottée à Marseille.
En fait il se met à la place d'un supporter du PSG si tu veux Omar.
J'ai pas utilisé la forme déculottée. J'ai dit que le PSG doit mettre une déculottée à Marseille pour se racheter.
Voilà, moi je te l'ai dit, il y aura pas de déculottée, il va y avoir un sursaut d'orgueil de nos joueurs. Vous savez très bien que les matchs d'Europa League, c'est une chose. Les matchs un classico, c'en est une autre. Pour Paris, je pense, et pour l'intérêt de la Ligue 1, parce que votre question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de ce match. Moi, j'attends un bon match de football pour l'intérêt de la Ligue 1, parce que, comme dit le proverbe, à vaincre sans péril, on triomphe sans gore. Ah voilà, ouais. Paris qui a déjà 11 points. Non, mais c'est vrai.
Tu nous as sorti
t'as deux premières en deux phrases, Omar, t'es là. Hein.
Il est bien, Omar. Ouais. Mais ça, c'est le supporter de l'âme.
Non, mais sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est que le stade, il sera plein. Nous, on jouera notre rôle de 12e homme. On va pousser notre équipe. Ça va être une belle affiche. Tout le monde va regarder ce match. Et j'ai bon espoir. Comme l'année dernière, j'ai dit la même chose. Et l'année dernière, pareil, tout le monde disait, ouais, l'OM, ils vont se prendre des culottés, ils vont morfler. Au final.
Ils se font égaliser dans le temps additionnel, hein, avec ce coup franc de Cavani, ouais.
Je crois qu'il devait y avoir peut-être 5 minutes d'arrêt de jeu. Cavani, il a mis un coup franc exceptionnel, dans les dernières secondes. Sans ça, on gagnait, comme quoi, un match de football, ça se joue à rien. Voilà.
Moi, j'étais d'accord, Omar, juste dans le film de la saison de l'année dernière. C'est un peu à partir de ce match-là que l'équipe commence à dérouler.
Bah tiens, on va écouter tiens Bounassar que Florent Germain a rencontré. Alors justement, ce fameux match, ce fameux but égalisateur de Cavani dans le temps additionnel, c'est suite à une faute de Bounassar. Il a accusé le coup. Il a même un peu déprimé suite à ça et il s'est confié au micro de Florent Germain. Écoutez-le, une belle révélation de la part de Bounassar.
Ah, j'en ai très mal dormi. Et je vais pas vous mentir, ça en est suivi par une période très difficile pour moi. Je pense même dans ma carrière, c'était un des moments les plus difficiles parce que quand on sait l'importance que ce match peut avoir pour les supporters de Marseille, d'autant plus que à cette période-là, j'avais pas, on va dire, la meilleure des cotes auprès d'eux, vis-à-vis d'eux. Donc je m'en suis voulu pour eux, je m'en suis voulu pour moi-même, pour l'équipe, parce qu'on n'était pas loin de l'exploit. Ça fait des années que Marseille n'a pas gagné contre Paris. Je me suis excusé auprès de mes partenaires parce que je savais qu'ils étaient déçus, pas énervés contre moi, mais déçus du scénario du match. Et j'ai reçu beaucoup de soutien de leur part, ce qui m'a énormément fait plaisir. J'ai même reçu une soufflante de Patrice Evra pour me dire que j'avais pas à m'excuser auprès du groupe, que c'était un signe de faiblesse et que j'allais être amené dans ma carrière à revivre ce genre de déception, ce genre de moment.
Voilà, c'était Bounassar.
C'est même pas ça. Le match se joue souvent.
Vas-y, Omar.
Si vous permettez, je voudrais dire à Bounassar, par votre intermédiaire, que non seulement on lui en veut pas, mais que moi j'aime beaucoup Bounassar. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un mec qui est vraiment club. C'est-à-dire que Garcia, il en a fait un joueur de couloir, un défenseur, ce qui n'est pas son poste de prédilection, on va dire. Et pour le collectif, parce que vous avez demandé, qui rechigne à jouer un poste qui n'est pas le leur. Moi, un jour, je l'ai croisé contre Lille et je lui ai dit, franchement, bravo ton état d'esprit. Tu fais passer le club, et nous, on aime à Marseille ça. Le ouais. club avant ta...
Surtout
avant
ta que club, dans le film du match, Omar, c'est pas vraiment de sa faute. Hein. C'est surtout le changement que Garcia fait de faire entrer Bounassar, parce que c'était déjà un latéral, et de faire sortir Thauvin. Enfin. Tout le monde s'est un peu regardant en disant, oh, qu'est-ce qu'il fait?
Ludo, t'allais dire, il y en a qui après Romain, supporter du PSG.
Parce qu'en plus, il saccage une occasion en plus avant de faire la faute.
Souvent, ce match-là, notamment quand il est au Vélodrome, il se joue sur une chose, l'état d'esprit. Or, l'état d'esprit véhiculé à Marseille, donc tu auras le public marseillais qui sera derrière ses joueurs. L'équipe peut se transcender quand elle a des locomotives. C'était Gignac et Ayou à l'époque. C'était des mecs qui t'entraînaient, qui mettaient l'intensité nécessaire pour embarquer tout le monde avec eux. Or, là, maintenant. Aujourd'hui, qui on attend sur ce match? On attend Payet, on attend Rami, on attend Strootman, on attend Gustavo. Si ces mecs-là mettent l'intensité nécessaire dans le combat, ils seront techniquement au niveau, il n'y a aucun problème là-dessus. S'ils mettent l'intensité nécessaire et qu'ils embarquent tout le monde avec eux, alors là,
c'était le
meilleur moment
de Gustavo,
pour eux de taper le PSG.
On remercie Omar, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. On accueille Romain, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Romain.
Ouais, salut, bonsoir.
Salut Romain. Salut
Romain. Alors Romain, même question pour Omar. Qu'est-ce que t'attends toi de ce match dans deux jours face à l'Olympique de Marseille? Alors après cette semaine, ce triste résultat face au Napoli en Ligue des Champions.
Alors moi, ce que j'attends concrètement, c'est une réaction de toute l'équipe. Voilà, un sursaut d'orgueil. Et je pense qu'on a été piqué à vif mercredi soir. On a pu voir la déception de tout le monde à la fin du match, même des supporters. Ensuite, l'année dernière. Bon, on ramène un match nul du Vélodrome, peut-être sur un hold-up. Mais les joueurs avaient pris un petit peu le match à la légère, je pense. Notamment...
Non, Marseille a fait un gros match, Romain, très franchement.
Non, Marseille a fait un gros match, mais honnêtement...
Il a fait le match parfait.
Que... Oui, non, mais ça, je dis pas que le contraire. Je dis pas que Marseille a fait un mauvais match. Mais c'est sûr que nous, dans l'intensité, on n'a pas abordé le match de la bonne manière.
Marseille a plutôt réussi à faire des joueurs de Paris.
J'espère que Marseille mettra aussi de l'intensité dimanche soir. Ça va nous permettre, nous aussi, d'être dans une configuration Ligue des Champions pour le match retour. Une ambiance assez chaude. Et pour espérer voilà, se mettre dans le match pour le match retour contre Naples. Quoi. Ouais. Mais bon, voilà, je pense concrètement qu'on va effacer la mauvaise soirée de mercredi soir. Je pense que les joueurs vont se parler, tout seul va remotiver les troupes. Et,
les joueurs vont se parler. Toi, t'as été lobotomisé par les conneries de langue de bois que les joueurs. On a vu la stade défiler, en tout cas. C'est vrai que gagner pour l'OM, ce serait un exploit, puisque ça fait 17 matchs que Marseille n'a pas battu le PSG. Depuis le 27 novembre 2011, victoire 3-0. Rémi Amalfitano Ayou avait marqué pour l'OM.
C'était au Vélodrome, et c'était Didier Deschamps qui était l'entraîneur.
Paradoxalement, tu te dirais que c'est le meilleur moment pour Marseille de jouer cette équipe. Or, Marseille n'est pas dans les meilleures conditions non plus. Et je pense que l'absence aussi peut-être présumé de Florian Thauvin sera aussi est très importante dans ce match-là.
C'était le premier match de l'ère Qatari, le premier PSG Marseille de l'ère Qatari. Il y avait Gamero, Néné et compagnie. Après moi, il y a juste une chose, Marseille a encaissé combien, 18 buts, c'est ça?
Ouais, je pense.
18 buts. La charnière, on a toujours quelques doutes sur qui va débuter. C'est ça qui fait peur côté marseillais.
16 en Ligue 1.
16 en Ligue 1.
Ouais.
OK. Donc ouais, 16 buts, c'est quand même beaucoup.
Alors hier d'ailleurs, on donnait la stat justement défensive de Marseille depuis le début de saison, c'est 23 buts encaissés en 13 matchs, tout
compte
confondu. Ouais.
C'est énorme, beaucoup, ouais. C'est énorme, et moi vraiment enfin
après Marseille défensivement, ils sont pas bien du tout ces dernières saisons.
Bah, c'est ce que je t'ai dit.
Statistiquement, c'est pas top.
Hein. Il faut qu'ils trouvent la formule, et là il y a urgence surtout quand on veut être face à l'Armada parisienne.
Merci à Romain d'avoir été avec nous.
Salut Romain.
Bon, juste vous dire également, vous pouvez faire vos compos pour le match de dimanche soir entre l'OM et le PSG, vous rendez sur l'appli RMC Sport News pour faire vos compositions d'équipe de l'OM, du PSG ou des deux, et puis vous partagez vos compos, et puis vous les partagez à celle de vos potes. Tiens, Romain et Omar, vous aurez qu'à faire ça, puis vous comparez vos deux compos pour dimanche.
Triplette Sakai.
Dans quelques instants, si tu veux, on sera avec Fred Hermel parce qu'il y aura un classico en Espagne, Barça Real.
S'en fout.
On va ouvrir les dossiers Lopetegui et Dembélé avec Fred Hermel juste après ça.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Jonathan McCarty, vous êtes avec nous sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio également. On a parlé du classique, du choc entre le Paris Saint-Germain et Marseille, entre Marseille et le Paris Saint-Germain qui sera dans deux jours. Et dans deux jours, il y a aussi un classico en Espagne, Barça-Real Madrid. Fred Hermel est avec nous, bonsoir Fredo.
Pardonne-moi, c'est pas un classico, c'est le classico.
Oh, il y en a d'autres.
Relaticos.
Il y en a d'autres, je suis désolé. Il y a le super classico.
Il y a le classico au Portugal avec deux S aussi.
Il y a le super classico. Il y a
même le classico avec un S. En tout cas, vous savez quel est le match de club le plus vu au monde, plus que la finale de la Ligue des Champions? C'est le Barça-Real Barça, quoi. C'est un truc de malade, quoi.
Ah ouais, vraiment.
Ah oui, vraiment, c'est le...
Et alors attends, Fredo, parce qu'avant de rentrer dans le vif du match, selon nos informations, alors on est donc le 26 octobre, tu as tapé un barbecue aujourd'hui.
Ah, c'est la fin, c'est l'année de la saison.
Faut le fêter,
le 26 octobre.
Il commence à pleuvoir et tout ça, mais j'ai quand même fait barbecue sur la pluie parce que j'avais une belle entrecôte et voilà. Puis là, tu vois, il commence à faire froid, c'est bientôt la Toussaint, tout ça, donc tu fais plus de Toussaint. Voilà, et c'est ça, Jonathan. On passe au
raclette fondue.
À la raclette, ouais, voilà. Là, c'est tu vois le moment où tu passes dans un autre monde, quoi. C'est bien la saison pour ça aussi.
Et il y a donc un autre monde également qui nous attend. Coup d'envoi 16h15 dimanche du match entre le Barça et le Real. Le Barça qui est en tête de la Liga, alors qui est juste devant l'Espagnol, son voisin à la différence de but, qui a 4 points d'avance sur le Real Madrid. Alors déjà, petit préambule, c'est le premier classico sans Messi ni Cristiano Ronaldo, puisqu'on rappelle que Messi est blessé au bras depuis 2007, depuis 10 ans.
Mmh. Ouais, bien sûr, c'est...
Comment s'est vécu ça en Espagne d'ailleurs? C'est un événement
Non, on en parle, mais bon, Cristiano est parti, quoi, voilà.
Ah ouais, mais Messi n'est pas là non plus, quoi.
Le match est plus grand.
Mais un jour, il sera plus là aussi. Puis un jour, il y a Zidane qui a arrêté de jouer au foot. Il y a
Raoul,
Xavi Hernandez qui est parti.
Non, mais ça veut dire qu'il n'est pas chez toi, c'est ça que je veux dire, Fredo. Je veux dire, il y a
c'est pas tant. J'ai l'impression que ça inquiète plus en dehors d'Espagne qu'en Espagne, quoi. C'est-à-dire que les clubs sont plus importants que les joueurs. C'est peut-être le grand problème qu'on a souvent en France.
C'est pas que ça inquiète, Fred, mais honnêtement, moi qui adore regarder le classico, tu vois, là, je vais préférer regarder Marseille-Paris Saint-Germain.
C'est à quelle heure, d'ailleurs, le match?
Mais pourquoi? Parce que les deux sont pas là.
Parce que, les deux sont pas là. Je sais pas, il y a pas de... J'ai du mal à m'y faire. Ouais.
Non, mais
moi je trouve que ça rajoute de l'intérêt, justement.
Disons,
tu vois, tu te dis, on va voir comment les deux vont jouer sur leur...
Le seul intérêt, c'est de savoir si le Real va avoir une réaction d'orgueil dans ce match-là, mais c'est vrai que j'ai plus l'étincelle de regarder ce match-là, ça me branche moins du coup.
Alors Fredo, justement, puisque tu parles
très français alors.
Ben, je sais, peut-être.
Ouais.
Peut-être
non, non, mais non, mais c'est pas chaud, une critique, hein, ouais. Mais c'est-à-dire que, ici, non, mais très français dans le sens où j'ai l'impression que, on pense peut-être plus en termes de joueurs, ou alors t'es très adolescente asiatique, quoi.
Ben,
comme
c'est,
en première ligue. C'est tu vois plus le la star Ligue 1, que l'équipe, alors.
Non, mais je veux dire, il y avait une saveur particulière entre l'opposition de ces deux mecs qui, justement, l'équipe était autour d'eux, et bon, l'équipe, bien sûr, elle les accompagne, elle est, c'est une équipe brillante des deux côtés, mais, et le fait qu'ils soient pas là les deux, je te cache pas que il manque quelque chose pour moi.
Et il y a Bordonis à 17h, il a il y a Bordonis à 17h.
C'est que ma vision, hein.
Bordonis, ça joue à Bordeaux, ça peut se comprendre.
Mais c'est-à-dire qu'en Espagne, bien sûr qu'on en parle, on dit voilà, c'est le premier truc, mais voilà, on dit Stéphano a arrêté le football, quoi, et un jour,
Raoul
et tout ça.
Non, mais Fred, c'est pas ça.
C'est 10 ans, mais c'est une décennie, non, là, c'est beaucoup.
On a eu la cohabitation, et ça fait 10 ans qu'on en parle, et toi le premier, que t'avais deux extraterrestres dans le même championnat et qui s'affrontaient, bon voilà, il y en a un qui s'est barré, l'autre qui est pété, c'est vrai que c'est un événement que aucun des deux soit là.
Bien sûr que c'est un événement. Mais moi, pour moi, ça n'enlève pas d'intérêt, parce que c'est un classico, c'est tellement important. Et c'est pour ça, je vais même dire que le contexte, Messi blessé, enfin il s'est cassé le bras, on le sait, Ronaldo qui est plus là, le Real qui est dans une crise terrible, parce que même s'ils ont gagné l'autre jour en Ligue Europa contre Victoria Pilsen, c'était nul.
C'était pas terrible.
J'étais au stage, je peux vous dire que ça faisait peur. Hein. Moi, je vous assure, quand je suis
sorti... Est-ce que tu penses qu'il peut avoir une réaction
je vais poser la question différemment.
Je termine ma phrase.
Vas-y, Fredo.
Quand j'ai sorti mardi, je me suis dit, demain, le PTI va se revirer, parce que sinon, c'est qu'ils ont envie de l'envoyer à l'abattoir, quoi.
Mais est-ce que c'est pas écrit qu'il y a une réaction demain, dimanche?
C'est possible. Mais un classico, de toute façon, c'est en dehors de tous les contextes. Il y a des équipes qui vont très bien, un Barça qui va très bien, un Real qui va très mal et c'est un Real qui gagne, un Real qui va très bien, un Barça. Rappelez-vous, pas la saison dernière, la saison d'avant, le Real était magnifique et ils perdent en Liga 3-2 contre le Barça qui leur passe devant. Et c'est grâce à un match qui manquait à Vigo que le Real Madrid réussit à gagner la Liga. Vous vous souvenez, la Liga Zidane? Et le Real était très supérieur. Et Messi met le but à la 93e minute.
Mais Fredo, alors Lopetegui, bon, visiblement, le lit est fait, comme on dit. Franchement, est-ce qu'il peut sauver sa tête sur ce match-là ou c'est vraiment plié? Est-ce qu'ils auraient pas dû le virer avant si tu me dis non?
Moi, sincèrement, je pense que le Real, quand je suis sorti du stade, et c'est la phrase que je voulais dire tout à l'heure, quand je suis sorti du stade mardi après le match contre Victoria Pilsen, je me dis, aujourd'hui, Lopetegui est usé, cette équipe ne va pas bien, elle a failli perdre 2 points contre Victoria Pilsen, et il faut le virer et mettre un autre pour qu'il y ait une réaction, quoi, pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que là, dans l'état, ils sont apathiques, c'est terrible, quoi.
Mais il tombe à point nommé, ce classico. C'est-à-dire que soit c'est la résurrection et tu peux gagner contre le Barça, et ça peut peut-être changer les choses, inverser la vapeur, ou alors, ça confirme ce qu'on pensait tous depuis un moment, et puis ça donne l'occasion, justement, de dire merci pour tout, et puis on prend quelqu'un.
Et s'il gagne?
Eh ben, justement, je te dis, ça peut peut-être relancer.
Sauf que les dirigeants ne croient plus une seule seconde dans Lopetegui.
Mais ils l'ont gardé parce qu'ils n'ont pas de successeur.
Mais tu peux pas le virer après une victoire si tu gagnes contre le Barça.
C'est ça. Après, c'est bien le problème du Real.
Le
fait de ne pas avoir viré Lopetegui, c'est premièrement parce qu'il n'y a pas de candidat évident. Donc, du temps de Zidane, après Benitez, il y avait Zidane qui attendait, c'était facile, hein.
On savait très bien que
là, il y a personne. Parce que Solari fait pas l'unanimité, et Solari, c'est pas Zidane. Donc, aujourd'hui, Solari, l'entraîneur de la réserve en troisième division du Castilla. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans le Real, qui s'est, à mon avis, mis dans une situation qui pourrait être ubuesque lundi.
Et Guti, il entraîne pas, là?
Non, mais Guti, mais faut arrêter avec l'histoire de Guti, sans déconner, quoi. Guti, ils lui ont même pas donné le Castilla, c'est pour ça qu'il est parti.
Okay.
Il restait quelques... Je dis, faut arrêter, pas contre toi, parce que plein de gens m'en parlent.
Non, mais c'est une
etc. Il rêvait du Castilla, le Real lui a pas donné. Alors, ils l'ont pas donné le Castilla, ils l'ont laissé avec les juniors. C'est pour ça qu'il est parti entraîneur adjoint à Besiktas. C'est pas pour lui donner l'équipe, l'équipe première maintenant, quoi. Voilà. Donc,
Fredo, un petit mot, s'il te plaît, aussi sur Ousmane Dembélé. Alors, moi, je vois qu'il fait beaucoup parler de lui en ce moment dans la presse catalane, notamment. Il est vachement critiqué. On lui reproche d'arriver en retard à l'entraînement. J'ai vu que le Barça avait démenti, je crois qu'il n'était pas arrivé en retard, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe avec Dembélé au Barça finalement?
Il joue à Football Manager.
Ça sent pas bon du tout.
C'est-à-dire?
Moi je suis il avait bien démarré la saison en revenant une semaine plus tôt du mondial, des vacances post-mondial. Ce qui avait été très apprécié par Valverde, l'entraîneur et les dirigeants. Il fait un début de saison, rappelez-vous, de folie. Il met le but de la victoire en Supercoupe d'Espagne contre Séville. Il est, lors du premier mois de Liga, le joueur qui apporte, de tout championnat, qui a apporté le plus de points à son équipe. Voilà, on se dit, ça y est, c'est parti. Et là, depuis 3 semaines, il a dû se passer quelque chose à l'entraînement. Il y a sûrement quelque chose dans son attitude qui ne fonctionne pas, qui ne plaît pas à Valverde, parce que il a été remplaçant dans le match contre Séville, remplaçant dans le match contre Tottenham à Wembley. Il a été remplaçant à Valence. Messi se blesse, il rentre en fin de match. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le match contre l'Inter, trois jours après, tout le monde se dit, bon, bah, Dembélé est remplaçant naturel de Messi. Il met Rafinha, Arthur mieux terrain. Rafinha marque.
Ouais.
Et aujourd'hui, Arthur, c'est bon. Le jeune Arthur, un jeune
brésilien. Il est très bon. Il est très bon.
Très bon. Mmh. On parle de lui comme le nouveau Xavi en Espagne. On aime bien, hein, ce genre de, d'appellation, mais on s'enflamme toujours un peu. On en fait un peu too much, des fois. Mais bon, il est très bon. Et on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé. Alors, moi, ce que j'aime chez Valverde, c'est que contrairement à Mourinho, je pense à lui parce que il va jamais, descendre un joueur devant la presse pour se justifier. C'est comme Zidane. Zidane avec Ramos. Ramos Rodriguez ne jouait pas parce qu'il s'entraînait très mal. J'ai pas d'informations directes parce que Valverde cache bien son jeu et ne dit rien parce qu'il veut pas mettre en cause comme ça. Mais il est évident que dans son attitude au quotidien, dans sa manière de s'entraîner, il doit y avoir quelque chose pour que Valverde le mette.
Fred, au-delà de l'entraînement, tu sais, enfin tu connais l'importance et moi je le souligne assez souvent de l'entraînement invisible. Est-ce que son retard à l'entraînement c'est un épiphénomène ou c'est récurrent?
C'est à la mise au vert.
Ouais, mais c'est quelque chose de récurrent chez lui.
Non, a priori, non.
Il a toujours son cuisinier parce qu'il lui avait embauché là.
Oui, mais c'est le Barça qui lui avait mis. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pas gênant parce que.
Non, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas une réputation depuis qu'il est à Barcelone,
Je vais vous dire ce que c'est le problème avec Dembélé. Le problème de Dembélé, ça, on l'a vu même, je sais pas, dans son comportement quand on regarde le documentaire sur lui-même, c'est qu'il est jeune dans sa tête.
Très jeune. Dans sa tête.
Ouais. Il est très jeune, c'est un enfant.
Mais sauf qu'il se comporte comme un enfant.
Après, il y en a d'autres qui ont son âge et qui arrivent à
l'entraînement. Non, mais la maturité, c'est pas une fonction d'âge.
Non, mais d'accord, mais justement, le fait d'arriver en retard à l'entraînement, donc ça veut rien dire ce que tu dis. Si c'est pas une question d'âge.
J'ai mal compris ce que tu t'es remarqué. Non, mais
il y a des jeunes qui arrivent en retard, d'autres qui arrivent à
l'heure. C'est un enfant encore.
Récurrent ou pas récurrent, quant à l'âge de Dembélé et le statut que t'as Dembélé au Barça, bah, je trouve ça bien de son entraîneur de dire, voilà, t'arrives en retard à la mise au vert, mon garçon. C'est l'apprentissage du haut niveau. Je pense pas que les autres, ils arrivent en retard à l'entraînement.
Allez, c'est bon.
Mais en plus Valverde, c'est un mec bien. C'est un mec bien Valverde. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui sait gérer ça.
Merci Fredo.
Salut Fred.
Merci les amis.
Bonne soirée, mon Fredo. Tiens, juste également vous saluer la petite initiative du Stade de Reims, alors qu'il jouera dimanche à 15h face à Rennes, alors qu'il a annoncé aujourd'hui qu'il allait jouer face à Rennes justement avec son maillot third, qui commémore le 60e anniversaire de la finale de la Coupe des Clubs Champions 59 face au Real Madrid. Le maillot qui adopte les couleurs du Real, qui a remercié d'ailleurs le Stade de Reims sur les réseaux sociaux.
En espagnol et en français.
Exactement. C'est très très joli, le maillot est magnifique. Ouais. Alors, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que le maillot n'est pas en vente encore. Moi j'ai eu les gars de la com, là, du marketing à Reims, ils ont dit que ça allait être résolu. Il y a l'équipementier qui a été un peu pris de vitesse et de court, et finalement ils sont complètement débordés par les demandes. Mais il est magnifique.
Moi j'ai reçu un petit SMS, j'ai rien demandé, j'ai reçu un petit SMS de Reims, on m'a dit voilà. T'inquiète pas, le tien est déjà réservé.
Voilà,
on a
XXL.
Merci Fredo, bonne soirée Fredo.
Ciao Fred.
Bisous, tu verras Fred. Quand t'auras 48 ans.
Allez, besos mon amigo.
À la Justicos.
Bisous Ludo, bisous Jonathan, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales, Jérôme Thomas, Nico Pelletier et toute la clique. Et nous on se dit à demain pour l'after bien entendu avec Ludo Bragnac, cet homme qui aura joué avec les Media FC et Ali Benarbia.
Non, c'est pas ça.
RMC Football Show, l'after foot.